À pied d'œuvre, le podcast qui réconcilie les arts et les sciences. Entre clin d'œil, jeu de miroir et de cache-cache, arts et sciences n'ont de cesse de se chercher et de se perdre pour mieux se retrouver. Tous les mois, je vous invite à partir à la découverte des accomplissements de ce drôle de couple qui, lorsqu'il se comprend, transcende la réalité. Un podcast de Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et de l'IT. Bonne écoute.
La plus belle chose dont nous puissions faire l'expérience est le mystère, la source de tout vrai art et de toute vraie science.
Albert Einstein. Aimez-vous la science ou plutôt l'art? Aucun? Ou peut-être les deux? Toute notre vie, tout nous a amené à opposer l'art à la science. De nos programmes télévisés à nos programmes pédagogiques, les matières dites scientifiques ont été confrontées aux matières artistiques comme si tout les séparait. L'art est subjectif, la science est objective. L'art est connaissance, la science est la recherche de la connaissance. Les artistes sont des vantards extravertis, les scientifiques sont des intellos discrets. Pour ce premier épisode du podcast À pied d'œuvre, je vous propose de mettre de côté nos a priori et nos intuitions pour appréhender art et science comme les deux faces d'une même pièce. Mais tout d'abord, d'où nous vient cette distinction? Nous la devons au philosophe Aristote, qui définit l'art comme la capacité à produire des objets utiles ou beaux, matériels ou intellectuels, en faisant usage d'une véritable réflexion et en obéissant à des règles vraies, c'est-à-dire efficaces et éprouvées. À l'inverse, la science est selon lui la capacité à démontrer. Aristote distingue également la science de l'art en soutenant que ce dernier porte sur le contingent, c'est-à-dire le fruit du hasard. L'art est contingent puisque son principe réside dans l'homme et son imprévisibilité naturelle. Outre l'Antiquité, une autre période est charnière pour la relation entre art et science, il s'agit de la Renaissance. Née à la fin du XVe siècle en Italie, elle prend d'ailleurs pour modèle l'Antiquité et redécouvre les arts, les lettres, les sciences et les mœurs. Si elle signe officiellement le divorce entre les deux, elle est également, et paradoxalement, une période où art et science sont intimement liés. En peinture, on notera l'apparition de la perspective, utilisée par des artistes comme Raphaël, ou le développement du clair-obscur, grâce à des artistes comme Masaccio. Le réalisme fleurit, les artistes ont désormais le souci d'exposer leur sujet de la façon la plus objective possible, en tentant de respecter les proportions, la symétrie et l'harmonie des formes, en opposition aux œuvres du Moyen-Âge. Les artistes comme Michel-Ange ou Léonard de Vinci se plongent par exemple dans l'étude de l'anatomie pour représenter les corps. Des sciences comme les mathématiques, la physique ou l'optique connaissent d'immenses progrès. En astronomie, la révolution copernicienne bouleverse la vision de l'univers héritée de l'Antiquité. Malgré les oppositions de l'Église, le modèle selon lequel la Terre tourne autour du Soleil tout en tournant sur elle-même se répand. Après ce bref regard sur le passé, tournons-nous maintenant sur le monde d'aujourd'hui. L'art contemporain et la société technologique dans lequel il s'épanouit ne pourraient-ils pas être le théâtre du prochain âge d'or du mariage entre art et science? Pour tenter de trouver des réponses à cette question, je me suis tournée vers Olga Kiseleva, une artiste franco-russe née à Saint-Pétersbourg en 1965. Olga appartient à cette première génération de la perestroïka qui a fait tomber le mur de Berlin et lever le rideau de fer à la fin de la guerre froide. Si, à cette époque, la supériorité scientifique et technologique était au cœur des objectifs de l'Union soviétique, l'intelligentsia scientifique était toutefois très impliquée dans la vie culturelle du pays, et ce, notamment depuis Saint-Pétersbourg, berceau de la culture russe. Une chose est certaine, la science coule dans les veines d'Olga. Sa grand-mère était géophysicienne, sa mère spécialiste des ondes électromagnétiques et son père président d'université. Si elle excelle tout d'abord en mathématiques, elle se tourne brièvement vers le journalisme avant de se consacrer à l'art. Artiste mondialement connue, elle enseigne depuis plusieurs années l'art contemporain et les nouveaux médias à la Sorbonne. Elle co-dirige le laboratoire Arts et Sciences à l'Institut ACT, une structure mise en place par le CNRS et Paris 1. En parallèle, elle est rédactrice en chef de la revue Plastique, dédiée à l'art et à la science. J'ai commencé par interroger Olga sur sa conception du duo art et science.
Évidemment, si on fait que de la science, on reste dans le domaine de la science, mais on peut switcher dans le domaine de l'art et de la culture tout en restant dans le domaine de la science, en croisant les deux méthodologies, en croisant les deux approches à la fois approche et méthodologie scientifique et celle de l'art. Ce n'est pas une fusion de la science dans la démarche artistique, c'est vraiment une démarche art et science qui est une démarche double, une démarche qui permet de voir et d'écrire le monde des deux points de vue en même temps. Dans mon cas, c'est vraiment la fusion des deux et avec la science qui vient en premier. C'est comme ça que ma démarche artistique a commencé. Et bien sûr, à l'époque, je m'appuyais sur les sciences que je maîtrisais. Donc, mathématiques surtout et physique.
Mais considérons-les maintenant individuellement. Qu'est-ce que la science apporte à l'art ? Difficile en un épisode de répondre de façon exhaustive à cette question. Nous allons prendre l'exemple de l'impressionnisme et du pointillisme. Le premier est un mouvement dans les années 1860 qui célèbre la modernité et le plein air, la notation rapide, les couleurs vives. Le second, souvent nommé post-impressionnisme, apparaît en 1886 et consiste à appliquer distinctement des petits points de couleur pour former une image. Les artistes relevant de ces mouvements, tels que Georges Seurat ou Paul Signac, ont été directement influencés par les travaux de scientifiques comme James Clerk Maxwell ou Michel-Eugène Chevreul sur le contraste coloré. Par ailleurs, l'invention du pointillisme est contemporaine à l'invention des microscopes à haute définition qui ont fait émerger la théorie cellulaire. Nous sommes alors face à un paysage pointilliste universel où tout ce qui vit est fait de points. Dans un registre plus poétique, et toujours en considérant l'impressionnisme et le pointillisme, on peut ajouter que la science apporte également des métaphores à l'art. Des termes scientifiques, comme poussière d'étoiles, viennent stimuler l'imagination et la création artistique. Le tableau « Impression soleil levant » de Claude Monet, qui donnera son nom au mouvement, en est un parfait exemple. Il s'agit là de la propre interprétation de Monet d'un soleil levant, mais pourtant, le titre de son tableau est tout à fait pertinent sur le plan scientifique. On sait depuis Galilée que le soleil levant n'est qu'une illusion, qu'il ne s'agit que de la Terre qui tourne sur elle-même. Art et science s'unissent dans ce tableau pour nous montrer que la réalité est beaucoup plus riche et complexe que nous ne pouvons spontanément le percevoir. En 2010, Olga Kiseleva a présenté pour la première fois l'installation interactive It's Time, réalisée en collaboration avec le physicien Sylvain Reynal. Une œuvre qui prend la forme d'une horloge digitale où art et science s'unissent afin de proposer une réflexion sur la relativité du temps et sur sa perception, différente selon l'individu et son environnement.
Moi qui viens de Saint-Pétersbourg, qui est une personne très lente, qui a une perception du temps qui est faussée, en fait c'est biologique, parce que nous les gens du Nord, on a le fonctionnement du corps tel que tous les processus dans le corps sont ralentis. Donc nous avons une perception du temps qui est différente par rapport à celle des Français, par exemple, qui sont des Latins, qui sont plutôt un peuple du Sud, et vos processus biologiques sont accélérés par rapport aux nôtres.
Le dispositif propose de s'affranchir de la dictature de la montre et d'écouter sa propre horloge biologique. Le spectateur doit poser sa main sur un capteur biométrique qui mesure ses pulsations cardiaques et la température de son corps. L'horloge s'adapte alors à son rythme, en ralentissant ou en accélérant l'affichage des secondes et annonce en lettres rouges l'attitude à adopter en fonction de son état de nervosité. Sois cool, baille un peu, prends ton temps.
Je ne savais même pas que c'était possible. Je voulais faire des dessins, des peintures, je ne sais pas, quelque chose qui poserait juste cette idée. Mais finalement, en s'adressant aux différents types de scientifiques, donc aussi bien les mathématiciens, spécialistes de calcul quantique, mais aussi des biologistes, des médecins, des cardiologues, on a réussi à créer un véritable prototype d'une telle horloge qui existe aujourd'hui en deux exemplaires, hein, donc un exemplaire en Russie grâce à la Biennale d'art contemporain qui a produit, une autre qui est au Louvre. Et aujourd'hui, nous sommes en discussion avec des compagnies qui produisent des horloges et des montres pour mettre en place vraiment ce genre d'outils qui pourraient permettre un certain épanouissement.
Ce projet artistique n'aurait jamais pu voir le jour sans l'apport scientifique de nombreux spécialistes. Il y a quelques années, l'université de Yale a lancé une initiative, bientôt suivie par toutes les grandes universités américaines. Elle proposait à ses étudiants dans le domaine médical de s'initier à l'art par la poésie, la peinture ou encore l'écriture. L'objectif ? Apporter à ses futurs médecins une approche plus empathique de leur métier. Un médecin n'est pas simplement un homme de science, c'est aussi quelqu'un qui a affaire à une personne. Il est question d'aller au-delà d'une appréhension purement biologique de l'autre. Le plus surprenant dans les résultats de ce projet, c'est que les étudiants étaient non seulement rendus plus sensibles à l'écoute, mais livraient des diagnostics de plus grande qualité. Comme si le développement de leur sens empathique leur avait permis d'aller plus profondément dans leur approche. Comme le disait le poète John Keats, rien n'est jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti. Si la science permet souvent de comprendre, elle échoue parfois à ressentir si elle ne va pas puiser dans l'art sa capacité à s'ouvrir à autrui. Partant de ce postulat, pour Olga Kiseleva, ce serait une erreur de penser les interactions entre les deux de façon binaire.
Très vite, en tant qu'artiste, j'ai commencé à dépasser la mathématicienne qui n'avait pas fini ses études et qui s'est tournée vers l'art. Et mes compétences en sciences ne suffisaient plus pour faire les œuvres que l'artiste en moi souhaitait faire. Donc, j'ai commencé à collaborer avec d'autres scientifiques. D'abord avec mes collègues mathématiciens plus qualifiés, peut-être des aînés, peut-être des gens avec des compétences spécifiques. Et ça a été un grand succès. Non seulement on a produit des œuvres qui sont retrouvées ensuite dans les plus grandes collections muséales, mais on a fait des découvertes scientifiques et vraiment tout le monde était heureux, aussi bien les gens du monde de l'art que les scientifiques, nos étudiants, nos galeristes. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas se tourner vers les autres sciences, vers les sciences auxquelles moi, pour ma part, je ne suis absolument pas compétente, mais qui permettent aussi de soulever des questions intéressantes, et en tout cas, celles qui me passionnent en tant qu'artiste.
Tournons-nous maintenant vers les principaux intéressés, les artistes et les scientifiques. Qu'est-ce qui les rassemble ? Qu'est-ce qui les éloigne ? Artistes et scientifiques partagent une même attitude. Le goût de la découverte, une certaine témérité pour aller au-delà de l'évidence, mais aussi une certaine disponibilité sensorielle et intellectuelle pour accueillir l'imprévu et se laisser surprendre.
Finalement, les deux sont donc créateurs. Ce sont des créateurs, des personnes curieuses, des personnes qui sont explorateurs, qui veulent aller de l'avant.
Art et science ont également en commun l'amour de la médiation et du partage. Il s'agit toujours d'un individu ou d'un groupe d'individus qui fait voir aux autres ce que son activité lui a permis de percevoir de la réalité. Olga va encore plus loin.
C'est presque, moi je dirais, qu'on fait le même métier. Le seul problème, c'est que le métier, souvent, la spécialité, disons, dans le métier, définit le langage. Et à la fin, même en ayant des procédés qui sont très proches, beaucoup de croisements d'intérêts, il se trouve qu'on parle un langage complètement différent. Et que en parlant, par exemple, d'une couleur, qui est le blanc ou le rouge, un artiste commence à expliquer au scientifique, ah, est-ce qu'on peut le faire un peu plus chaud, un peu plus froid? Et le scientifique ne comprend pas. Ce que dit l'artiste, il dit, mais tu veux quelle valeur? Est-ce que tu veux 57 ou 58? Voilà, c'est un exemple flagrant. On parle de la même chose, on est en plein volonté de le perfectionner, mais pour le faire, on doit apprendre le langage des uns et des autres. Et c'est peut-être la seule difficulté qui existe. Sinon, je pense que tous les artistes et les scientifiques travailleraient toujours ensemble.
Goethe est peut-être l'un des meilleurs exemples de cette inclination des artistes et des scientifiques à faire la même chose de deux façons différentes. Goethe est à l'origine d'un superbe traité des couleurs qui est venu remettre en cause les apports de Newton sur les mécanismes de notre vision. Newton pensait qu'il s'agissait de la simple transposition en couleurs des longueurs d'onde de la lumière. Goethe, de façon plus moderne, pensait que nous inventions en partie les couleurs en fonction des longueurs d'onde que nous percevions. Plus que quelques similarités isolées, pour Olga, c'est le jeu du hasard.
Les artistes et les scientifiques, je pense que c'est le même type de personnes qui se sont retrouvées par par biais du destin, peut-être de l'endroit où se sont trouvées des personnes qu'ils ont rencontrées sur le chemin. C'est ça qui a défini pourquoi l'un ou l'autre est devenu soit peintre, soit mathématicien. Moi, j'en suis un exemple vivant.
En l'interviewant, je me suis rendu compte que je m'étais mal représenté la collaboration entre artiste et scientifique. Je m'étais imaginé que c'était plutôt l'artiste qui allait voir le scientifique pour lui demander de l'aide dans la réalisation d'une sculpture monumentale ou d'un instrument de musique improbable. Selon l'expérience d'Olga, c'est plutôt la science qui viendrait à l'art.
Le plus souvent, en fait, c'est à l'inverse que ça se passe. Il y a quelque chose qui existe déjà dans le domaine de la science et l'art vient décrypter ce savoir scientifique et de lui trouver une place dans le monde, dans le présent, dans le futur, et peut-être même l'adapter de façon à ce qu'il s'inscrive vraiment, pas seulement dans l'art et la science, mais aussi dans notre existence. Donc c'est un échange constant entre ces deux outils qui sont l'art et la science, ces deux visions du monde.
De l'œuf ou de la poule, la question n'est pas tant là, car chacun favorise le développement de l'autre. À chaque invention artistique, scientifique, technique, la culture se modifie, permet l'émergence de quelque chose de nouveau et nous donne même l'opportunité de repenser notre société. Depuis le début de cet épisode, nous parlons beaucoup des sciences dites « dures », les mathématiques, la physique, la chimie. Ce serait oublier les sciences humaines et les sciences sociales, qui se retrouvent souvent au cœur des œuvres d'art contemporain. Ce faisant, la science quitte la rigidité qu'on lui accorde habituellement pour s'engager.
Je pense que n'importe quel vrai projet d'art contemporain, il est engagé et il touche des questions de la société et des questions politiques. Par exemple, l'horloge que je vous ai décrite, c'est aussi un outil politique et social. C'est une autre perception du temps. C'est une société où le temps n'est pas dicté d'en haut, n'est pas dicté par la société capitaliste qui nous demande de nous donner à cette société de plus en plus, de donner de plus en plus de notre temps, de notre corps, mais qui est imposé d'en bas. C'est plus démocratique, en fait. C'est une proposition d'une sorte de démocratie participative et démocratie qui touche vraiment chacun. Donc, chaque projet, en fait, au départ, il a un engagement politique et sociologique. Ensuite, il y a des outils scientifiques qui viennent pour le mettre en place. Et à la fin, il y a une forme esthétique qui le rend peut-être attirant, sympathique, convivial, qui crée une sorte d'interface avec le spectateur.
Au XIXe et au XXe siècle, il était populairement admis que la raison, et donc l'appréhension scientifique du monde, était d'autant plus importante qu'elle était froide, dépourvue d'émotions. Pourtant, l'explication du monde ne prend de sens que si elle s'ancre dans quelque chose qui est de l'ordre de la perception, du ressenti et de l'émotion. De façon inverse, notre perception émotionnelle a tout à gagner à un certain ancrage dans la rationalité. Au début de l'épisode, je me demandais quel pouvait être l'avenir de ce mariage dans un monde de plus en plus technologique.
Je suis persuadée que l'art, art-science, on peut dire ça, le domaine qu'on appelle art-science, c'est l'avenir de notre voie de connaissance du monde. Parce que mathématiques, c'est une mode de connaissance du monde, la biologie, c'en est une autre, l'art, c'en est une troisième. Et je pense que cette convergence, elle se produit de plus en plus et il y a de plus en plus de laboratoires, des lieux d'art, des structures, des programmes qui amènent les compétences des deux côtés. Et c'est au croisement de ces compétences que les découvertes et les processus et des objets les plus intéressants d'aujourd'hui et de demain apparaissent.
Y a-t-il véritablement une différence entre regarder la relation entre la lumière et la matière, qui relève d'un regard scientifique, et regarder celle entre l'ombre et la lumière, qui relève d'un regard artistique? Ray Bradbury, auteur américain et référence du genre de l'anticipation, écrivait: La science n'est pas plus qu'une tentative d'explication d'un miracle inexplicable et l'art une interprétation de ce miracle. Le tissage des activités scientifiques et artistiques dans la culture ont grandement impacté et impactent toujours nos sociétés. L'un est l'environnement dans lequel l'autre va émerger et se modifier. Nous avons tout à gagner à ne pas opposer ces deux champs qui constituent les gardiens de la création humaine. À pied d'œuvre, épisode 1, c'est déjà terminé. Un immense merci à Olga Kiseleva d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez aller plus loin, vous retrouverez des liens menant à ses travaux ainsi que des ressources complémentaires dans la description. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode autour de l'une des personnalités les plus connues au monde, celui qui incarne à la perfection la figure de l'homme ingénieur. Je pense que vous savez de qui je veux parler. En attendant, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à lui laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. À bientôt !